Go, la revue presse JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer.
C'est pas sexy Sarah ça.
C'est pas sexy choucroute Sarah ça.
Bienvenue à toutes et tous dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle, vous le savez, de jeux vidéo chaque matin. Nous sommes le vendredi 13, hein. Alors je sais pas si vous allez jouer au loto ou gratter un petit gratto-gratte des familles au PMU du coin. Ce matin, c'est une émission particulière. Alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit l'été qui fait que je tente des petites choses comme ça. Une émission un peu particulière ce matin, puisque un article m'a tellement plu que je voulais vraiment vous en parler dans son intégralité. Et donc c'est un sujet sur la santé et les jeux vidéo, alors ne partez pas en courant, c'est pas anxiogène du tout. Bien au contraire, nous allons parler des bienfaits des jeux vidéo sur la santé. C'est un papier de Lacroix que j'ai trouvé formidable et qui rappelle certaines vérités qui font du bien à lire, à entendre, en ces temps où le jeu vidéo est à nouveau diabolisé plus que jamais. C'est toujours intéressant, même si, comme je l'ai déjà dit dans de précédentes émissions, bien sûr, l'addiction que pointe l'OMS, cette classification, a des bases tout à fait solides que je ne renie pas du tout. Bien au contraire, hein, je pense qu'il faut combattre ce biais-là également. Mais le jeu vidéo a également beaucoup de vertus, de belles et bonnes vertus, et on va parler de ça ce matin. J'ai découvert pour l'occasion quelques jeux que je ne connaissais pas du tout, donc je vais vous en parler dans cette émission. Donc j'espère que le sujet va vous plaire, j'espère que vous le partagerez en masse, puisque c'est important, et je pense que ça peut même aider certaines personnes, y compris moi. Pour mon cas personnel, il y a des noms de jeux là qui m'ont vraiment fait tilter, que je vais surveiller avec le plus grand sérieux du monde. Donc je vous propose d'attaquer tout de suite, et puis on se retrouve de toute façon après pour l'outro, pour se dire au revoir, bon week-end, amusez-vous bien, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu as prévu pour l'apéro, où tu vas regarder la finale de la Coupe du Monde, bref, toutes ces questions ô combien passionnantes et indispensables, on se les posera en fin d'émission, mais pour l'heure, place au jeu vidéo qui sert aussi à soigner. Quand le jeu vidéo sert aussi à soigner, c'est le titre d'un papier publié par Lacroix et qui, à côté de toutes les polémiques qu'on peut entendre à droite à gauche, vient nous rapporter une vérité que certains ont tendance parfois à oublier, c'est que le jeu vidéo a des vertus absolument fantastiques. Et le papier de Lacroix nous parle tout d'abord du jeu vidéo Les 6 saisons de brume. Ce dernier permet de dépister les enfants dyspraxiques. Alors, dyspraxique, je rappelle brièvement que c'est une altération de la capacité à exécuter de manière automatique des mouvements déterminés. Ah oui, je vous le dis tout de go, j'ai été cliqué sur Wikipédia pour vraiment vous donner la bonne définition et pas me tromper là-dessus. Ou dyslexique. La dyslexie, c'est un trouble de la lecture. Et donc, les 6 saisons de brume permet donc de dépister les enfants et de les accompagner dans leur apprentissage. Ce jeu a été développé par Tralalaire et soutenu par Lee Fran, espace de formation, de recherche et d'animation numérique. Il mêle, nous dit-on, stratégie, dextérité et rythme pour entraîner les compétences motrices et cognitives. Alors dans ce jeu, le jeune joueur évolue dans un environnement brumeux, nous dit-on, où il est amené à redessiner les personnages et les objets avec ses doigts. Catherine Roland, la responsable du projet, nous dit, je cite, on lui demande de reproduire les tracés pour travailler la motricité fine ou de suivre une boule sur une ligne droite pour développer ses capacités visio-spatiales. Alors, conçu par des professionnels de santé, ce jeu original et poétique, nous dit Lacroix, permet également d'améliorer la concentration grâce à des rythmes qu'il faut répéter. Madame Roland nous dit « L'objectif est de dépister le plus tôt possible les troubles moteurs et de sensibiliser les enseignants. Aujourd'hui, la dyspraxie ou la dyslexie sont souvent diagnostiquées trop tard, vers la fin du collège. » Alors, il faut savoir que les 6 saisons de brume est en phase de test encore au sein de l'Académie de Poitiers, mais s'adresse néanmoins à tous les enfants de l'école primaire, c'est ce que précise en tout cas Catherine Roland, qui ajoute « C'est un jeu inclusif qui peut être utilisé en classe par tous les élèves afin de faciliter ou renforcer les apprentissages. » J'ai mené ma petite enquête, j'étais voir sur le site officiel à quoi ressemblait ce jeu. Alors, il n'est pas encore disponible, mais le sera pour tous courant 2019. Hein. Donc c'est un jeu tactile sur device mobile. Je vais surveiller ça de très très près, parce que vous savez que moi, mon fils est autiste Asperger, et donc il a des problèmes de psychomotricité. Il a de la rééducation chaque semaine hein, pour cela, chez une spécialiste. Mais je me dis que ce genre d'application pourrait peut-être l'aider à aller encore plus vite, aller encore plus loin. Je vais surveiller ça d'un œil attentif. Alors de son côté, Xavier Pomereau, pédopsychiatre, un chef du pôle aquitain de l'adolescent au CHU de Bordeaux, utilise lui aussi un jeu vidéo intitulé Clash Back, un jeu qui est utilisé dans un cadre thérapeutique. Alors il précise, c'est plus un simulateur, hein, je le cite, hein, c'est plus un simulateur de comportement qu'un serious game. Il s'agit d'amener l'adolescent à s'identifier au personnage sur une cause familière, comme la demande d'autorisation pour se faire un tatouage. L'objectif est de comprendre son mode de fonctionnement dans des situations de conflit avec les parents à travers un outil qui fonctionne mieux à cet âge que les questions en face à face. Et effectivement, j'ai été voir l'épisode qui concerne le tatouage. Effectivement, ça ressemble un petit peu à un jeu d'aventure textuelle, comme vous pouvez le voir dans un Telltale par exemple, où effectivement, il y a un dialogue, en tout cas dans cet exemple-là, entre un père et sa fille. Et donc l'adolescent qui s'identifie au personnage qui veut se faire tatouer a le choix entre plusieurs réponses par rapport à ce que dit le papa dans le jeu. Et la conversation continue comme ça, et bien évidemment prend des tournures différentes selon les réponses données. Donc, je reviens sur Papier de la Croix qui nous dit qu'après 2 ans d'utilisation, le bilan de l'expérience hein, sur Clashback est positif. Le pédopsychiatre nous dit, je cite, « Tous les adolescents s'identifient facilement alors que le personnage est une fille. On ne s'attendait pas à ce qu'il fonctionne aussi bien avec les garçons. » On nous précise aussi qu'une thèse médicale a également confirmé les bons résultats du jeu sur le test d'impulsivité et l'intérêt des jeunes pour l'outil puisque 93% d'entre eux ont accepté de participer. Alors conçu pour être utilisé par des professionnels qui travaillent avec des adolescents en difficulté, Clashback remporte donc un certain succès auprès des équipes éducatives et psychosociales, mais reste peu utilisé dans l'univers psychiatrique, à la grande surprise donc du médecin qui nous dit « C'est pourtant notre profession qui devrait être la plus ouverte aux nouveaux supports qui favorisent l'échange avec les adolescents d'aujourd'hui. » Une situation qui le désole visiblement. Donc comme je vous le disais, c'est un jeu d'aventure qui ressemble à certains jeux qu'on trouve vraiment dans le commerce. J'ai été voir donc un petit peu à quoi ça ressemblait, je vous ai dit, j'ai vu une vidéo, j'ai regardé des screenshots. Donc le site officiel nous précise que chaque épisode interactif est une mise en situation, donc des relations adulte-ado. L'échange, qu'il se termine ou non en clash, débouche sur un profil du joueur établi à partir de ses choix sous la forme d'un diagramme à 5 composantes. Ces composantes étant sincérité, impulsivité, adaptabilité, expression émotionnelle, compréhension de la situation. Tout cela s'accompagne d'un bilan complet, commenté par le docteur Pomereau, réplique par réplique, et donnant accès à des rubriques détaillées sur les enjeux de l'adolescence. Alors effectivement, on pourrait regarder ça d'un petit œil moqueur en se disant « Bon, comment définir un profil psychologique via ce jeu ?» J'ai envie de vous dire, mais je trouve la démarche super intéressante et encadrée par des professionnels, je ne vois pas pourquoi ce serait moins crédible qu'un autre test. Et c'est pour cela que je tenais vraiment à vous rapporter cet article ce matin, à vous en parler, puisque ceci, on n'en parle pas assez. Alors effectivement, l'addiction, ça, on en parle et a raison, hein, bien sûr, mais c'est dommage que ce type d'angle ne soit pas plus traité dans diverses rédactions. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment donc sur les réticences du corps médical, enfin de l'univers psychiatrique tout du moins, à utiliser ce genre de jeu. Ces réticences donc ne surprennent pas du tout Pascal Staccini, professeur de santé publique à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et le monsieur nous dit, je le cite, « Les effets des serious games dans le domaine de la santé ne sont pas faciles à mesurer de manière scientifique, comme dans le cas des médicaments. Alors le corps médical se méfie. En réalité, il s'agit davantage de dispositifs pour stabiliser ou changer les comportements plutôt que d'outils thérapeutiques. » Alors vous voyez que là, l'angle est un petit peu différent. Son analyse, son point de vue, en tout cas, écarte quand même la notion thérapeutique. C'est intéressant de le noter. Mais à l'entendre, ces jeux auraient surtout un effet sur la motivation. Il nous dit « Cela fonctionne avec les jeunes souffrant de diabète, par exemple, pour la prise de conscience de la maladie et le suivi de la glycémie. » Et c'est encore plus intéressant dans le cadre d'un AVC, avec un jeu comme Voracy Fish, le malade peut faire de la rééducation tout seul, de manière ludique, en plus des séances chez le kiné. Et là, le papier n'en dit pas beaucoup plus sur ce jeu, alors j'ai mené ma petite enquête à nouveau. Quel était ce jeu Voracy Fish? Et bien sur le site officiel, on nous explique concrètement ce que c'est. Le joueur incarne un poisson solitaire et terriblement vorace dans un univers marin, avec comme unique commande son bras et sa main, puisque ça se joue avec la caméra Kinect. Le patient contrôle donc ce poisson, le fait évoluer sur la carte, croisant une épave de bateau, des crabes et de nombreuses autres créatures marines. Les mouvements donc sont capturés par la caméra de Microsoft. Il faut faire attention à ne pas se faire becter, mais il faut aussi becter les plus petits que soi. Et l'univers riche et coloré, nous dit le site de Voracy Fish, favorise l'immersion du patient pour que l'aspect ludique favorise sa rééducation. Le patient oublie l'espace d'une partie, sa pathologie, pour mieux se concentrer sur le jeu et gagner en motivation. Et vous voyez, cet exemple-là m'a fait changer un petit peu d'avis sur la caméra Kinect. Vous savez, bon, c'est facile de se moquer du Kinect, et moi le premier, hein, je ne me suis pas gêné pour le faire, mais je n'avais jamais pensé que dans un cadre de rééducation, quelles pouvaient être toutes les vertus de la caméra de Microsoft. Et là, je me dis, effectivement, ce serait vraiment quelque chose à creuser encore plus. Ça donnerait une seconde vie au Kinect qui serait tout à fait noble, déjà, utile. Ce serait vraiment une seconde vie pour cet accessoire. Retour donc sur le papier de la croix qui conclut avec Pascal Sacchini qui se dit, je cite, « intuitivement convaincu de l'intérêt de ces jeux, mais il en reconnaît les limites. Hein. Il nous dit, je cite, « ils font partie des outils d'aujourd'hui et certains donnent de bons résultats, notamment dans le domaine de l'autisme. Mais il faut être prudent, en particulier avec les enfants qui risquent de s'isoler devant les écrans et ne pas en attendre des effets spectaculaires. » Lacroix conclut en nous disant que, encore marginal, le secteur du serious game dans le domaine de la santé n'intéresse pas les industriels, plus occupés par les jeux dédiés essentiellement au divertissement. Et cette démarche pourrait en outre pâtir de la classification de l'OMS hein, concernant le trouble du jeu vidéo. Effectivement, on a l'impression qu'on voit les deux faces hein, d'une même carte, mais qui peuvent difficilement cohabiter, tout du moins sur un plan scientifique et idéologique, et pourtant je pense qu'il y aurait des ponts à faire, il y aurait des belles choses à faire. J'ai adoré ce papier, c'est le genre de sujet que j'aime mettre en avant dans l'émission, vous le savez, j'aime bien vous apporter des papiers qui ne sont pas si faciles à trouver et dont certains sujets ne sont pas du tout traités sur les gros sites JV. Bravo Lacroix pour ce papier éclairant, ce papier vraiment captivant et plus précisément, puisqu'il faut quand même citer le nom de la journaliste, c'est Paula Pinto Gomez. Eh ben madame ou mademoiselle, je ne sais pas, je vous dis merci. Et voilà, c'est déjà la fin. Il est grand temps de nous quitter, chers amis, chères auditrices et chers auditeurs. Mais pas de panique, si vous êtes tipeur, on se retrouve dès demain matin pour votre édition spéciale du samedi à récupérer directement sur le Tipeee. Car je le rappelle, si vous voulez m'aider à porter cette émission toujours plus loin, toujours plus haut vers l'infini et au-delà, vous avez le Tipeee. Et selon les contributions, il y a pas mal de choses chouettes à récolter, notamment votre épisode inédit chaque samedi et la possibilité d'enregistrer à mes côtés la grande revue de presse JV. Justement, concernant l'épisode du samedi, je suis en train de réfléchir activement à ce que je pourrais apporter de plus pour la saison 2 à partir de septembre. Je rappelle que l'émission reste ouverte jusqu'à la fin du mois de juillet, mais au mois d'août, seule l'édition des tipeurs restera. Et en mois de septembre, bien sûr, votre édition quotidienne sera de retour avec quelques nouveautés. Mais concernant l'édition des tipeurs le samedi, j'aimerais voilà, vous offrir un petit peu plus de variété, garder la revue de presse rétro, mais vous proposer aussi autre chose, faire une sorte de roulement. Donc avec les tipeurs, on est en train de regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire sur le salon qui leur est totalement dédié sur le Discord. Discord hein, dont le lien est dans la description de l'émission, vous le savez. Mais sur le compte Twitter, @revuedepressejv, tout collé. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler. Qu'est-ce qui vous ferait vraiment super kiffer de voir en tant que tipeur le samedi? Est-ce que vous en avez marre de la revue de presse rétro? Est-ce qu'elle vous plaît toujours? Est-ce que vous voudriez voir autre chose? Bref, moi j'ai pas mal d'idées de mon côté, mais toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre et j'aime, vous le savez, faire participer les auditeurs sur le contenu de l'émission. J'aime vous faire participer puisque le podcast est une matière vivante et surtout pour un podcast quotidien, il y a toujours moyen d'être en constante évolution et c'est très intéressant et c'est beaucoup plus passionnant, intéressant de le faire à vos côtés, bien sûr. Je vous souhaite donc un excellent week-end, portez-vous bien, et donc à demain pour les tipeurs et à lundi. Pour tout le monde, vous retrouvez, vous inquiétez pas, votre brochette de news quotidienne, mais c'est vrai que le sujet de ce matin me tenait tellement à cœur que je voulais vraiment lui consacrer toute l'émission. Allez, portez-vous bien, gros béco, vive le jeu vidéo, et à très bientôt. Allez, bye bye.